Et bienvenue aux auditeuristes qui nous rejoignent en ce début d'après-midi. Aujourd'hui, on revient au lavoir en comité réduit avec Manon, Mathilde et Lucie pour faire mousser jusqu'à 15h les ondes de Canal Sud Radio. Cette fois-ci, pas de masterclass à l'horizon, pas de rencontres désagréables dans les toilettes, pas de féminisme expliqué à ceux qui comptaient se torcher le cul avec. Pas d'histoire de bélier énervé, pas de chronique astrologie, on vous revient plus douce et épurée, presque gentille. Comme on a été studieuse à l'école, on a bien appris notre règle de 3 et on a fait le calcul. 3 personnes divisées par 3 micros fois 2 bouquins, ça donne Lucie qui livre une chronique qu'on pourrait titrer « Deux femmes, un combat, représentation artistique féministe du travail domestique », où elle vient mettre en parallèle le travail de deux femmes, une performeuse, une cinéaste, qui font une mise au point sur le travail domestique des femmes dans les années 70. Ensuite, Manon viendra nous présenter un texte de l'autrice québécoise Aude, qu'elle aime beaucoup. Pour finir, je vous lis un texte du recueil « Autour de ton cou » de Chimamanda Ngozi Adichie. Ces temps-ci, autour de lavoir, on se fait tourner pas mal de bouquins. Parmi eux, Colza, le récit de Alice Bailac qui vient de sortir aux éditions Blast. On l'a lu pour plusieurs d'entre nous. C'était une grosse claque, mais une claque consentie et surtout très très nécessaire. Je pourrais vous en dire plus, mais je le dirais mal. Alors, qui mieux que l'autrice pour parler de son propre livre? C'est pourquoi nous avons pris rendez-vous avec Yael pour venir nous parler en direct chez les lessiveuses de son personnage Colza. Affaire à suivre. Et maintenant, place à Lucie ou Manon. À Lucie!
Oui, merci Mathilde pour cette belle introduction. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver aujourd'hui. Moi, je vais vous parler donc de deux femmes, comme l'a dit Mathilde, une artiste performeuse et photographe et une cinéaste. Donc, je ne vais pas forcément détailler leur vie parce que ce serait très long et on sait comment je peux être quand je m'emballe et quand je découvre quelqu'un, enfin des femmes que je trouve extraordinaires. Donc là, je vais me centrer sur leurs œuvres ciblées, pas toutes, logiquement, mais leurs œuvres qui portent sur le même sujet traité avec un œil féministe, ça va sans dire, le travail domestique. Donc, cela commence avec une série de photos. Une femme lave des marches en extérieur. Debout, elle donne de grands coups de balai sur le béton. À genoux, le visage tourné par terre, elle brique laborieusement le bas des marches avec son jean troué et son t-shirt simple à manches courtes, les deux mains dans la crasse. Une autre encore, ma préférée, où sur cette photo, accroupie, elle vide l'eau sale de son bac en plastique en haut des marches et la saleté dégouline sur le long des marches. Elle dégouline sur nous, spectateurs, et continue de couler sur nos pieds, probablement, dans le hors-champ. Ce sont de belles photos. C'est une série intitulée « Washing, Tracks, Maintenance, deux points, Outside ». Je découvre une autre série de photos, sœur de celle-ci, qui s'appelle « Washing, Tracks, Maintenance, deux points, Inside ». Et je vois la même femme faire le ménage dans des salles de musée, entre les gens qui regardent les expositions. Eh bien, ce n'est pas seulement une série de photos, c'est surtout une performance de Myrl Laderman-Euclès. Je mettrai quelques photos sur notre Instagram, les lessiveuses, avec toutes les références que je suis en train de donner pour qu'on puisse vraiment la retrouver. Donc, c'est une performance de Myrl Laderman-Euclès, qui est une artiste américaine qui vit et travaille à New York. Lors de cette performance, Myrl a lavé les marches de ce musée, mais aussi des salles à l'intérieur. C'est un énorme travail qu'elle a effectué pendant 4 heures et dont moi j'ai découvert par après les photos. Donc cette performance se passe en juillet 1973. Et Myrl, 4 ans avant cette performance, avait publié un manifeste en 1969, donc, qui s'appelle Manifesto for Maintenance Art. Désolée pour l'accent. Où elle explicite sa vision créatrice. Elle appelle son action l'art de la maintenance, c'est-à-dire maintenance de l'anglais, on peut traduire par entretien, l'art de l'entretien, l'art de... Enfin, maintenance, c'est un mot qui existe aussi en français. Parce que pour elle, l'art de la maintenance relie son action de femme, de féministe, de mère et d'ouvrière. Parce que Merle, tôt dans sa carrière, c'était après la naissance de son premier enfant, décide d'incorporer le travail domestique à son art. Et là, peut-être que on peut avoir quelques lectures. Non, c'est pas... Quelques lectures...
Alors après, moi, je les ai en anglais, mais j'ai pas fait la traduction.
Ou peut-être... Enfin, simplement en anglais, c'est bien aussi. Voilà, je te
laisse. I am an artist, I am a woman, I am a wife. I am a mother, random order. I do a hell of a lot of washing, cleaning, cooking, renewing, supporting, preserving, etc. Also, up to now separately, I do art. Now I will simply do these maintenance everyday things and flush them up to consciousness, exhibit them as art. Maintenance is a drag. It takes all the fucking time. The mind boggles and shafts at the boredom. The culture confers lousy status on the maintenance job, equal minimum wages, housewives, equal no pay.
Merci beaucoup Manon, je pense qu'on peut te rendre hommage parce que ça, je t'ai demandé de le lire il y a à peine un quart d'heure, donc merci beaucoup pour cette lecture.
On précise qu'on mettra une traduction a posteriori parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la traduction, on était un peu pressé, en lien de notre émission. Voilà.
Merci beaucoup. Non, mais ta lecture était très bonne parce que je trouve que tu as un bon accent et on comprenait quand même. Moi, je voulais qu'on entende la voix de cette femme aussi et ses mots à elle, donc qui sont extraits de son manifesto pour l'art de la maintenance, où elle met en lien vraiment le travail domestique avec son... En fait, elle en fait un vrai travail, en fait, qu'on comprenne que ça prend tout le temps et que tout le temps disponible, et qu'en plus, quand on est mère de famille, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... en fait, oui, en faire un art, mais surtout, elle montre la pénibilité de ce que c'est. Et donc, durant cette performance où Merle a lavé, en fait, le musée, l'intérieur et l'extérieur pendant 4 heures, donc cette artiste, elle se tient face au musée avec un sérieux quand même. Il y a une tenue sur tout le long et elle n'arrête pas une seconde, par contre. Bah, elle ne se repose pas, ça, quasiment. Et jusqu'à exécution finale de la tâche, sans un mot, sans un mouvement d'humeur ou de révolte, simplement le geste banal que nous connaissons d'une femme qui fait le ménage. Et personne ne l'a pris à la légère, d'ailleurs. Il y avait un soleil de plomb quand même, c'était en juillet, et c'était une exécution très maîtrisée. Sur l'intérieur, l'artiste a aussi aligné des couches. Ce sont des petits, comme des petits chiffons, des carrés blancs comme ça, légers, qu'on appelle diapers, donc ce sont des couches qu'elle a exposées pour faire sécher sur les marches dehors. Et ces couches-là font aussi le... Bon, ces couches, elles sont utilisées par le musée pour nettoyer les surfaces des vitres et des encadrements. Et la manière dont elle les a couchées au sol pour les exposer après avoir lavé ses marches, ça fait aussi le parallèle entre le statut de mère qui change les couches et donc elle fait aussi le lien avec l'univers artistique professionnel et institutionnel qu'est le musée, mais aussi de la cellule familiale. En fait, c'est une artiste qui, après son mariage et ses grossesses, s'est retrouvée mère de famille et qui a incorporé dans sa création toute la colère aussi que lui a inspiré cette séparation qu'on lui a imposée, soit mère, soit artiste, soit prendre soin de la famille, élever les enfants, et on le sait, hein, selon le dernier rapport 2021 de l'Observatoire des inégalités en France, 80% des tâches domestiques sont pratiquées par des femmes. Donc imaginez un peu dans les années 70. Donc soit il faut prendre soin de la famille et élever les enfants, donc toute l'énergie et le temps passé à ces tâches, nourrissent une grande colère en elle à propos de son identité de mère. Et une de ses identités est aussi de se considérer comme une ouvrière. Et cet été, 1973, au musée, elle exécute en tout 4 performances différentes. 2 qui exposent le travail domestique des femmes dont je viens de parler, l'intérieur et l'extérieur du musée. Et 2 autres performances qui sont nommées, une, Transfer, 2 points, The Maintenance of the Art Object. Et l'autre qui est appelée The Keeping of the Keys, 2 points, The Maintenance of Security. Et dans lesquels elle interroge le lien entre le pouvoir et l'autorité intrinsèque au musée. En fait, Mireille ne croit pas à cette institution de l'art qu'est le musée. Et le fait de faire des performances où elle met en valeur les invisibles, le travail invisible de sécurité et de nettoyage, était aussi une manière de leur montrer qu'ils ne doivent pas se croire à l'abri de la critique en tant que musée. Sa performance, dont j'ai envie de parler un petit peu aussi, celle qu'elle a appelée Touch Sanitation, qui a duré 3 ans, de 1977 à 1980, elle montre le travail des éboueurs de la ville de New York. Elle les remercie pour leur travail, qui est... Donc elle les remercie pour leur travail qui est essentiel au bon fonctionnement de la société et dans la santé publique. Et il y a une série de photos qui retracent cette action, même si dans le vocabulaire artistique, on me corrigerait pour dire que c'est une performance et pas une action. On voit sa rencontre avec 8500 éboueurs, donc c'est un travail colossal, un travail artistique. C'est 2 mots que j'aime beaucoup, travail et art, mais surtout quand ils sont côte à côte, ça c'est... j'aime beaucoup, parce que c'est une manière de montrer que y a pas de génie, il y a du génie, d'accord, oui, mais moi je crois pas vraiment au talent, et c'est du travail quand même, comme ce qu'elle a fait là, et surtout engagée comme ça, socialement et politiquement. Donc c'est un travail qui est d'autant plus brut, beau et impactant qu'il est engagé, justement. Et Merle, pour avoir intégré le travail domestique des femmes, et notamment la vie ouvrière dans son art, a subi du mépris pour son art et pour elle-même. Et aujourd'hui, je tiens à dire qu'elle est tout à fait installée dans le paysage de l'art contemporain. Même j'ai cru comprendre qu'elle faisait référence, parce qu'on trouve beaucoup de colloques universitaires dont elle est le sujet ou l'invité. Donc, et elle a été primée par des prix prestigieux, notamment l'Anonymous Was a Woman Prize, donc un prix que je ne connaissais pas, qui récompense les femmes artistes de plus de 40 ans afin de contrer le sexisme et la sous-représentation des femmes dans le monde de l'art, parce que ce prix-là s'accompagne d'une somme d'argent importante pour soutenir vraiment ces femmes dans leurs projets, qu'elles puissent le continuer, en plus d'avoir une reconnaissance. Et Merle fait également l'objet de thèses universitaires, et elle est également reconnue pour son grand travail en tant que militante écologiste depuis les années 70. Donc voilà pour cette artiste-là. Je vous encourage à aller vraiment voir ses photos, puisqu'il n'y avait pas de captation de ses performances. Mais il en reste de très belles photos où on la voit faire le ménage. Ça a l'air anodin, mais elles sont vraiment très belles. Et on les mettra dans notre Instagram pour qu'on ait un support un petit peu plus visuel. Merci. Eh bien, on vient d'écouter la bande-annonce d'un film qui s'appelle Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. C'était la... Bruxelles, pardon. C'était la bande-annonce de ce film-là, puisque là, je vais parler d'une autre femme artiste qui a aussi œuvré sur le travail domestique dans les années 70. Donc ça, c'est vraiment le lien avec Mirle dont j'ai parlé avant. Et donc, je vais vous parler de ce film maintenant. La bande-annonce, elle est dépouillée de dialogue. Elle baigne dans les bruits d'eau qui coule, de l'aspirateur, de trucs qui rissolent dans la poêle. Et un silence comme ça qui s'étire. Voilà la musique du labeur des femmes qui se passe derrière les murs. Et donc, je répète le titre de ce film parce que bah, je l'aime beaucoup. Il est assez étonnant. Il s'appelle donc Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Donc c'est une adresse, CEDEX, quoi. Enfin, pas CEDEX, mais oui, une adresse qu'on aurait pu voir écrite sur une lettre. Il a été réalisé par Chantal Ackerman et sorti en 1976. Le pitch, le voici. Pendant 3h30, la réalisatrice montre 3 jours dans la vie d'une femme qui se prostitue chez elle et qui s'occupe de son fils adolescent. J'ai vu ces films, moi, il y a très peu de temps, et je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyée une seule fois. C'est pas du tout ce qu'on attend, je vous préviens. Il n'y a aucune scène de sexe, il n'y a aucune grande émulsion des corps et de la langue dans les dialogues, quelque chose qui pète, qui serait un peu explosif. Non, on y voit une femme qui répète les mêmes actes parfaitement anodins. Mais je peux vous dire que le fait de filmer plusieurs fois cette femme, simple d'apparence, enfin, au demeurant, voilà, banale, et la filmer de dos, en train de faire la vaisselle, seule, puis en train de faire à manger en temps réel, seule, puis de la voir faire les lits, coudre, faire le ménage et mettre la table et demander à son fils si c'est bon, etc. En tant que femme, ça vous met une angoisse. Et tout ça, c'est ce que j'avais ressenti, enfin, ce que j'ai ressenti, tout en trouvant cette femme extraordinaire, par ailleurs. Hein. Mais ça m'a mis une angoisse de me dire que ta vie de femme, dans un schéma normé, c'est ça. Et non, c'est pas exagéré de le dire en 2022, il suffit de prendre les stats, de regarder les chiffres. Ce n'est pas les années 70, certes, aujourd'hui il y a quand même eu de l'évolution, mais est-ce qu'on a eu notre révolution, nous, les femmes? Donc, il y a dans l'observation de cette femme, toujours dans les mêmes endroits, cuisine, salle de bain, chambre, en gros, un enfermement, et de la voir pendant une séquence entière de dos, tout le haut du corps penché dans la baignoire, en train de la nettoyer, sans aucune musique, sans rien de spectaculaire, avec juste le bruit de ses genoux qui cognent contre le carrelage. On se souvient, on ressent ce que ça fait, on a le temps de ressentir que bah voilà, le sang monte à la tête à force de briquer la baignoire à l'éponge, et quand on se relève, on est toute rouge, et puis on enchaîne avec le ménage de la maison, et puis... bon, moi, j'ai pas d'enfant à m'occuper, donc je sais pas ce que c'est, mais pour dire la fascination que les tâches de cette femme, robotique un peu, peuvent provoquer. Et c'est de là que vient l'angoisse. Regarder une personne si proche de vous, comme ça, c'est se regarder soi-même. Hein. Nous aussi, on fait ça. Et là, on se dit, je suis passée à ça, de trouver ça normal, de m'accommoder de ce que j'ai en silence et d'élever mes enfants. Hein. Moi, je parle pour moi, mais je veux dire, là, c'est comme ça qu'on élève les femmes. Et le film le montre en toute... très, très impactant en toute simplicité. Et comme elle enchaîne toutes ses tâches quasiment sans répit et qu'il n'y a pas beaucoup de coupures, on la suit en temps réel quand elle cuisine devant nous, vraiment. Quand elle fait le lit, elle le fait vraiment. Quand elle fait le ménage, elle le fait vraiment. Et du coup, on comprend la dimension que prend ces tâches domestiques des femmes et que c'est un travail qui dure, qui prend toute la journée, en fait, qui prend des heures, en tout cas. Chantal Ackerman, la réalisatrice, ne filme jamais de gros plans, ce qui fait qu'on a aussi cette sensation qui, à mon avis, rend le film supportable, dans le sens qu'on dépasse l'angoisse. Donc, elle donne cette sensation d'observer un objet d'étude aussi, comme il n'y a pas de plan serré. Puis cette sensation d'enfermement, elle revient parce que je ne me souviens pas de si c'est vraiment à chaque fois, mais dans mon souvenir, une pièce de la maison correspond à un angle de vue, plus ou moins. Donc il y a un truc qui monte dans le ventre quand on comprend très vite toute la vie de cette femme, ses habitudes, et quand on comprend les pièces de la maison. Je veux dire, on les connaît. Et c'est cyclique. Et en fait, on comprend que le temps passe comme ça. Ça veut dire une vie passe comme ça. Et moi, ça m'a bien remué, ce sentiment-là. Et pour le personnage, on ne connaît rien de Jeanne, cette femme. On vit avec elle sa vie extrêmement réglée, dans laquelle il n'y a aucun plaisir et aucun temps à soi. Là, on voit une aliénation, sans distance, sans hauteur ou dédain pour cette femme. Pas du tout, hein, au contraire. Sans la sublimer, hein. On la montre telle qu'elle, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Peut-être que c'est le plus dur au cinéma, de ne pas sublimer, ni de caricaturer. Et la notion du sacrifice aussi m'est venue en tête. On ne souhaite pas plus, enfin cette femme-là ne souhaite pas plus que ce qu'elle a, parce qu'on ne le lui a pas appris. Elle se dévoue à l'éducation de son fils, qui ne voit pas tout le travail qu'elle fait. Il ne voit pas tout ce travail au même titre que la société ne le reconnaît pas et que la politique ne le reconnaît pas. Et donc, Jeanne, elle est au service des hommes et du plaisir masculin sans en avoir jamais. J'ai trouvé l'écriture de ce personnage excellent et loin des représentations habituelles des prostituées, par exemple. Elle n'est pas présentée dans des excès, elle ne boit pas, ne fume pas, son appartement est spacieux, style Ikea, un petit peu, petit carrelage, néon au plafond, meuble en bois, le truc propre, carré, quoi. Puis elle-même, dans sa tenue, un léger brushing de boucles courtes, les cardigans, les chemisiers, les robes longues, les petits gilets, pas de bijoux, à peine maquillée. Je raconte tout ça parce que ça tranche personnellement avec la plupart des représentations des TDS que j'ai vues, donc travailleuses du sexe, surtout au cinéma. Après, ça doit être moi aussi qui ne vois pas forcément les bonnes choses, hein, je le reconnais volontiers. Donc toutes les scènes qu'on pourrait voir comme une cassure avec ses tâches quotidiennes, comme les sorties nocturnes avec son fils ou les scènes de sexe qui auraient pu être montrées, en fait, avec le même discours féministe. Mais c'est des scènes que d'autres cinéastes auraient privilégiées. Eh bien, elles sont hors caméra. On ne les voit jamais. Les portes se ferment et puis on enchaîne avec les tâches ménagères du lendemain. Et je pense que ce choix nous enlève, à nous, spectateurs, du monde du sensible, de l'intériorité, et que ça augmente le côté objet d'étude, robotique. Et pour donner envie quand même de le voir, déjà c'est une expérience de cinéma inoubliable, et y a une intrigue qui se développe sur ces 3 jours et qui l'a conduit à une action irrémédiable, mais je ne vais pas divulguer la fin, c'est juste pour pitcher. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez un aperçu plus complet, en images j'entends, de ce film, c'est-à-dire des extraits vraiment de voir, je vous conseille la chaîne YouTube qui est excellente, qui s'appelle Cinéma et Politique. Je mettrai le lien dans notre Instagram Les Lessiveuses aussi, pour que vous retrouviez absolument toutes ces références qui sont cruciales. Et vraiment, si vous ne la connaissez pas, Cinéma et Politique, courez-y, parce que c'est un travail monstrueux et extrêmement pro. Moi, qui m'a bien aidé à résumer les points forts de ce film, parce que même si je l'avais déjà vu, j'ai tendance à m'éparpiller quand je parle d'œuvres qui me tiennent à cœur. Et puis là, c'était quand même ça m'a servi de support, donc allez-y. Et donc voilà, je termine là-dessus. Les 2 points communs de ces 2 artistes des années 70, c'était de placer le travail domestique comme il est. C'est une aliénation consentie et permise par la dure condition des femmes et le fait que c'est du travail, mais c'est du travail gratuit, invisible et non reconnu comme tel, et qui est d'une grande pénibilité, qui prend tout le temps de la journée. Et oui, hein, sinon les bourgeois n'engageraient pas des gens pour faire le ménage chez eux. Par ailleurs, et c'est aussi ce que montrait Myrle avec les éboueurs, ce que socialement, le travail de femme de ménage n'est pas reconnu et pas bien payé, voire même esclavagisant. Tous les métiers en rapport avec le travail domestique ne sont pas bien payés, ou même qui a trait au travail avec les enfants, jardinière d'enfants, accompagnatrice scolaire, gardienne de maternelle, femme de ménage, donc tout ce qui est attrait à ça, à l'accompagnement de la personne ou au ménage, tous ces métiers-là ne sont pas bien payés, parce que c'est quelque chose qui est gratuit à la maison. Alors pourquoi il faudrait payer pour ça? Et puis on le sait, encore une fois, 80% des tâches domestiques sont effectuées par des femmes aujourd'hui en France et que la crise Covid a permis de poser la question, qu'est-ce qu'un travail essentiel à la société ? Quel travail on peut se permettre de geler en cas de crise ? Quel travail est indispensable ? Et les féministes, bien avant le Covid s'entend, demandaient elles aussi qu'est-ce que le travail ? Car ce sont bien les premières à savoir que la politique a toute sa place dans les affaires dites privées ou intimes et que ces œuvres de ces deux artistes, Merle Laderman Euclès et Chantal Akerman, faites dans les années 70, sont ô combien toujours d'actualité. Merci de m'avoir écouté.
Mathilde au micro, et pour ma part, je m'étais lancée dans plein de lectures différentes ces derniers temps, enfin plusieurs livres, gros livres différents, et je me suis retrouvée un peu embourbée. Je ne savais donc pas trop quoi vous présenter cette semaine, et la réponse est tombée ce week-end, grâce à un bouquiniste toulousain qui vendait sur le marché. Je suis tombée nez à nez avec le recueil de nouvelles « Autour de ton cou » de Chimamanda Ngozi Adichie. Et je dois dire que ce livre tombait à pic, puisque ça faisait plusieurs mois que je voulais le lire d'elle, le livre « L'autre moitié du soleil », mais que, comme le veut la fameuse loi d'Archimède, ou je ne sais plus laquelle, dans une pile de bouquins à lire, les livres les plus lourds coulent en premier. Et pour « L'autre moitié du soleil » qui fait plus de 500 pages, la règle ne s'est pas loupée. Rien de mieux qu'un recueil, donc un recueil de nouvelles pour découvrir l'écriture de cette autrice que je ne connaissais que par ses conférences qui ont été retranscrites. Nous sommes tout, tous des féministes et le danger de l'histoire unique, et dont j'avais parlé 13 émissions plus tôt au tout début des Lessiveuses. Pour celles qui ne la connaisseraient pas encore, Chimamanda Ngozi Adichie, c'est une autrice nigériane qui a passé une partie de sa vie aux États-Unis et qui a arraché plusieurs prix littéraires, notamment pour son livre L'hibiscus pourpre. Et si vous n'avez toujours pas l'impression de la connaître parce que je ne vous en ai pas dit grand-chose, je vous conseille grandement, plutôt que de m'écouter, d'aller écouter ses interviews sur YouTube. Son recueil Autour de ton cou, ou This Thing Around Your Neck en anglais, contient 12 nouvelles écrites à des moments différents de la vie de l'autrice qu'elle a choisi de rassembler en une œuvre qu'elle a publiée en 2019. Et quand j'aurai lu le recueil en entier, je pourrai vous en dire plus. Aujourd'hui, je préfère, en guise de préambule, vous lire le début de la nouvelle Autour de ton cou, celle qui a donné son titre au recueil, et j'espère vous donner envie de lire la suite avec cette petite lecture. Je vais donc lire Autour de ton cou. Tu croyais qu'en Amérique, tout le monde avait une voiture et une arme à feu. Tes oncles, tes tantes et tes cousins le croyaient aussi. Quand tu as gagné à la loterie des visas américains, ils t'ont dit « Dans un mois, tu auras une grosse voiture. Bientôt, une grande maison. Mais ne va pas acheter un revolver comme ces Américains. » Ils s'étaient attroupés dans la pièce où tu vivais avec ton père, ta mère et tes trois frères et sœurs, à Lagos, en s'appuyant contre les murs crus, car il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. Ils venaient te dire au revoir, d'une voix forte, et te glisser à mi-voix ce qu'ils voulaient que tu leur envoies. Comparé à la grosse voiture et à la grande maison, voire au revolver, leur envie était modeste. Des sacs à main, des chaussures, des parfums et des vêtements. Tu avais dit d'accord, pas de problème. Ton oncle d'Amérique, qui avait inscrit tous les membres de la famille à la loterie des visas, te proposa d'habiter chez lui, le temps de trouver tes marques. Il vint te chercher à l'aéroport et t'acheta un gros hot-dog plein de moutarde jaune qui te donna mal au cœur. « Une introduction à l'Amérique, » dit-il en riant. Il habitait une petite ville blanche du Maine, dans une vieille maison de 30 ans, au bord d'un lac. Il te dit que l'entreprise pour laquelle il travaillait lui avait offert quelques milliers de dollars de plus que le salaire moyen, plus des « stock options », parce qu'ils étaient prêts à tout pour avoir une image de diversité. Il mettait sa photo dans toutes leurs brochures, même celles qui n'avaient aucun rapport avec son service. Il rit et dit que c'était un bon poste, qui méritait qu'il vive dans une ville entièrement blanche, même si sa femme devait faire une heure de voiture pour trouver un salon de coiffure où l'on sache coiffer les cheveux noirs. Le truc, c'est de comprendre l'Amérique, de savoir que l'Amérique, c'était donnant-donnant. On faisait beaucoup de sacrifices, mais on gagnait beaucoup aussi. Il te montra comment postuler à un emploi de caissière à la station-service de Main Street et t'inscrivit à une fac où les filles avaient de grosses cuisses, portaient du vernis à ongles rouge vif et mettaient de l'autobronzant qui le rendait orange. Elle te demandait où tu avais appris à parler anglais et si vous aviez de vraies maisons là-bas en Afrique, si tu avais déjà vu une voiture avant de venir en Afrique. Tes cheveux les laissaient pantoises. Est-ce qu'ils tiennent tout droit ou ils retombent, si tu défais tes tresses ? Elle voulait savoir. Ils tiennent tous tout droit ? Comment ? Pourquoi ? Est-ce que tu te sers d'un peigne ? Tu leur adressais un sourire pincé quand elle te posait ces questions. Ton oncle te dit de ne pas t'étonner. C'était un mélange d'ignorance et d'arrogance, selon lui. Puis il te raconta que les voisins avaient prétendu, quelques mois après son emménagement, que les écureuils commençaient à disparaître. Ils avaient entendu dire que les Africains mangeaient toute espèce d'animaux sauvages. Tu riais avec ton oncle et tu te sentais à l'aise chez lui. Sa femme t'appelait Noané, sœur, et ses deux enfants d'âge scolaire t'appelaient Tanti. Ils parlaient Igbo et mangeaient du gari à déjeuner. C'était comme à la maison. Jusqu'au jour où ton oncle entra dans le sous-sol exigu où tu dormais, entre des vieilles caisses et des briques alimentaires, et où il t'attira violemment contre lui, en te pétrissant les fesses et en gémissant. Ce n'était pas vraiment ton oncle, en fait. C'était un frère du mari de ta tante paternelle, sans lien de sang. Quand tu le repoussas, il s'assit sur ton lit. Il était chez lui, après tout. Souris, et te dit qu'à 22 ans, tu n'étais plus une enfant. Si tu le laissais faire, il te rendrait de nombreux services. Les femmes intelligentes faisaient ça tout le temps. Comment croyais-tu que les femmes qui avaient des boulots bien payés au pays, à Lagos, y parvenaient? Et même celles de New York. Tu restas enfermé dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il remonte. Et, le lendemain matin, tu partis à pied, par la longue route sinueuse, dans l'odeur des alevins du lac. Tu le vis passer en voiture sans klaxonner. Avant, il te déposait toujours à Main Street. Tu te demandas ce qu'il allait raconter à sa femme. Quelle raison il invoquerait pour dire ton départ. Qu'il invoquerait pour ton départ. Et tu te souvins de ce qu'il t'avait dit. Que l'Amérique, c'était donnant-donnant. Tu te retrouvas dans le Connecticut, dans une autre petite ville, parce que c'était le terminus du bus Greyhound que tu avais pris. Tu entras dans le restaurant au store propre et pimpant, et tu dis que tu étais prête à travailler pour $2 de moins que les autres serveuses. Le gérant, Juan, avait des cheveux ailes de corbeau et une dent en or qu'il découvrit en souriant. Il dit qu'il n'avait jamais eu d'employé au Nigeria. Il dit qu'il n'avait jamais eu d'employé du Nigeria. Mais que les immigrés travaillaient tous dur. Il le savait, il était passé par là. Il te payerait $1 en moins, mais sous la table. Il n'aimait pas toutes les taxes qu'on lui faisait payer. Tu n'avais pas les moyens d'étudier parce que tu payais maintenant un loyer pour ta chambre minuscule à la moquette tachée. La petite ville du Connecticut n'avait pas de fac locale et les crédits de l'université de l'État étaient trop chers. Alors, tu allais à la bibliothèque municipale, tu consultais les programmes des cours sur les sites internet des établissements et tu lisais certains des livres. Parfois, assis sur le matelas plein de bosses de ton lit une place, tu pensais au pays. Tes tantes qui vendaient du poisson séché et des bananes plantains dans la rue. Cajolant les clients pour qu'ils achètent, puis les abreuvant d'insultes s'ils n'achetaient rien. Tes oncles qui buvaient du gin local et entassaient leur famille et leur vie dans une seule pièce. Tes amis qui étaient venus te dire au revoir avant ton départ, pour se réjouir que tu aies gagné la loterie des visas américains, pour avouer leur envie. Tes parents qui se tenaient souvent par la main quand ils allaient à l'église le dimanche matin. Ce qui leur valait les rires et des taquineries des voisins de la chambre d'à côté. Ton père qui rapportait de son travail les vieux journaux de son patron et les faisait lire à tes frères. Ta mère, dont le salaire suffisait tout juste à couvrir l'inscription de tes frères au collège où les professeurs accordaient un A quand on leur glissait une enveloppe Kraft. Toi, tu n'avais jamais eu besoin de payer pour avoir un A, jamais glissé d'enveloppe Kraft à un de tes professeurs au collège. Pourtant, tu choisissais maintenant de longues enveloppes Kraft pour envoyer à tes parents la moitié de tes gains mensuels, à l'adresse de l'établissement semi-public où ta mère faisait le ménage. Tu te servais toujours des dollars que te donnait Juan, parce qu'ils étaient neufs, contrairement à ceux des pourboires. Tous les mois. Tu pliais soigneusement l'argent dans une feuille de papier blanc, mais tu n'écrivais pas de lettres. Il n'y avait rien à écrire. Après quelques semaines pourtant, il te vint l'envie d'écrire parce que tu avais des histoires à raconter. Tu voulais raconter le caractère étonnamment communicatif des Américains qui s'empressent de vous parler du combat de leur mère contre le cancer ou de l'accouchement prématuré de leur belle-sœur, autant de choses qu'on devrait taire ou ne révéler qu'aux membres de la famille qui s'en soucient vraiment. Tu voulais raconter comment les gens laissent leurs assiettes à moitié pleines et chiffonnent quelques dollars en manière d'offrande, semblait-il, ou d'expiation pour un tel gaspillage. Tu voulais raconter la gamine blonde qui s'était mise à pleurer, à se tirer les cheveux, à jeter les menus par terre, tandis que ses parents, loin de la faire taire, la suppliaient cette gamine qui devait avoir autour de 5 ans. Jusqu'à ce que, pour finir, ils se lèvent tous de table et s'en aillent. Tu voulais raconter que les riches portaient des vêtements miteux et des tennis déchirés, qu'ils avaient la dégaine des gardiens de nuit des grandes concessions de Lagos. Tu voulais raconter que les Américains riches étaient minces, tandis que les Américains pauvres étaient gros, et qu'ils étaient nombreux à ne posséder ni grande maison, ni grosse voiture. Quant au revolver, tu ne pouvais pas te prononcer pour le moment. Car qui sait s'ils n'en avaient pas au fond de leur poche ? Ce n'était pas juste à tes parents que tu avais envie d'écrire. C'était aussi à tes amis, tes cousins, tes oncles et tes tantes. Mais comme il était exclu, avec l'argent que tu gagnais comme serveuse, que tu puisses jamais acheter de parfums, de vêtements et de sacs à main pour tout le monde, tout en continuant à payer ton loyer, tu n'écrivais à personne. Personne ne savait où tu étais, parce que tu ne le disais à personne. Parfois, tu avais l'impression d'être invisible et tu essayais de traverser le mur de ta chambre pour rejoindre le couloir et tu te faisais des bleus au bras en te cognant contre le mur. Une fois, Juan te demanda si tu avais un homme qui te battait, parce que si c'était ça, dit-il, il lui ferait son affaire. Et tu lui avais répondu par un rire mystérieux. La nuit, quelque chose venait s'enrouler autour de ton cou. Une chose qui manquait de t'étouffer avant que tu ne sombres dans le sommeil. Au restaurant, beaucoup de gens te demandaient depuis quand tu étais venu de Jamaïque, parce qu'ils croyaient tous que les Noirs qui avaient un accent africain étaient Jamaïcains. Ou bien, si certains devinaient que tu étais africaine, ils te disaient qu'ils adoraient les éléphants et ils avaient envie de faire un safari. Aussi, quand il te demanda, dans la pénombre du restaurant, alors que tu venais de lui réciter les plats du jour, de quel pays d'Afrique tu étais originaire, tu répondis le Nigeria, en t'attendant à ce qu'ils disent qu'il avait donné de l'argent pour lutter contre le sida au Botswana. Mais il te demanda si tu étais Yoruba ou Igbo, car tu n'avais pas un visage Fulani. Ce qui te surprit. Tu te dis qu'il devait être professeur d'anthropologie à l'université de l'État, un peu jeune, puisqu'il devait tout juste approcher de la trentaine, maintenant allez savoir. Igbo, répondais-tu. Il te demandait comment tu t'appelais et dit que c'était joli, Hakuna. Il ne te demanda pas ce que ça signifiait, heureusement, parce que tu en avais plus qu'assez de la réaction des gens. Richesse du père ? Vous voulez dire, votre père va vous vendre un mari, vraiment ? Il te raconta qu'il était allé au Ghana, en Ouganda et en Tanzanie, qu'il adorait la poésie d'Okot Pébitek et les romans d'Amos Tutwala, et qu'il avait beaucoup lu sur les pays d'Afrique subsaharienne, sur leur histoire et leur complexité. Tu voulais ressentir du dédain et le manifester en lui apportant sa commande, car les Blancs qui aimaient trop l'Afrique et ceux qui ne l'aimaient pas assez se valaient, par leur égale condescendance. Mais il ne hochait pas de la tête d'un air supérieur comme l'avait fait le professeur Kobeldick à ta fac dans le Maine, lors d'un débat en classe sur la décolonisation en Afrique. Il n'avait pas la même expression que le professeur Kobeldick, cette expression de qui se croit meilleur que les gens sur lesquels il a quelques connaissances. Il vint le lendemain et s'assit à la même table, et lorsque tu lui demandas si le poulet était bon, il te demanda si tu avais grandi à Lagos. Il vint le troisième jour et se mit à parler avant même de commander, racontant qu'il avait visité Bombay et qu'il voulait maintenant visiter Lagos pour voir comment vivaient les vrais gens, par exemple dans les bidonvilles, parce qu'il ne faisait jamais les trucs idiots pour touristes quand il était à l'étranger. Il parla tant et plus, et tu dus lui dire que c'était contraire à la politique du restaurant. Il effleura ta main quand tu posas le verre d'eau. Le quatrième jour, en le voyant arriver, tu dis à Juan que tu ne voulais plus servir cette table. Ce soir-là, après ton service, tu le trouvas qui attendait dehors, les écouteurs vissés dans les oreilles, et il te demanda de sortir avec lui parce que ton nom rimait avec Hakuna Matata et que Le Roi Lion était le seul film à l'eau de rose qu'il n'ait jamais aimé. Tu n'avais jamais entendu parler du Roi Lion. Tu le regardas dans la lumière vive et remarqua qu'il avait les yeux de la couleur de l'huile d'olive extra vierge, un doré tirant sur le verre. L'huile d'olive extra vierge était la seule chose que tu adorais en Amérique, que tu aimais sans réserve.
Bonjour, ici Manon. Alors, je vais vous lire, enfin je vais d'abord vous présenter une autrice qui est très importante pour moi, qui s'appelle Claudette Charbonneau-Tissot. Alors, Claudette Charbonneau-Tissot était une autrice québécoise. Elle est née le 22 juin 1947 à Montréal et elle est décédée le 25 octobre 2012 à Québec. Elle obtient son diplôme d'études françaises à l'Université de Montréal et celui d'écriture créative à l'Université de Laval. Elle a enseigné au Cégep Garneau durant les années 70 et a publié dans les revues La Barre du Jour, le magazine Châtelaine ou encore la revue littéraire XYZ. C'est après ses trois premiers ouvrages « Contes pour hydrocéphale adulte »,« La contrainte » et « La chaise au fond de l'œil » qu'elle opte pour son nom de plume, Aude. Elle publie des recueils de nouvelles fantastiques, entre autres, par exemple « Contes pour hydrocéphale adulte » et remporte en 1997 le prix du gouverneur général du Canada pour cet imperceptible mouvement. En 1998, paraît « L'enfant migrateur ». Elle s'est attardée à décrire la vie des laissés pour compte, des enfants, des femmes maltraitées, de ceux et celles qui souffrent au plus profond d'eux-mêmes et de leur chair. Atteinte d'une leucémie, son travail créatif a été ralenti à partir de 2005. Dans l'avant-propos à Éclat de lieu que je m'apprête à vous lire, elle parle de ses difficultés physiques et émotionnelles rencontrées depuis l'annonce de sa maladie, mais aussi de sa lutte sans relâche et ce, au concours de l'art, de la création et de la fiction. Je dois à ma professeure de littérature francophone Sylvie Vigne la rencontre avec cette autrice qui a bouleversé ma vie et dont j'ai appris le destin et la trajectoire comme celle d'une comète. J'ai appris de Aude que la lutte est sans relâche, elle est affaire de grâce, de joie de vivre et de sourire aussi, souvent. Affaire de don de soi dans le vivant, pour l'art et pour ce qu'il y a à créer, encore et toujours. Avant-propos pour mes lectrices et mes lecteurs, passés, présents et à venir. Tout cela fut écrit joyeusement, partant de catastrophes. Ceci est une citation de Jean-Yves Leloup. L'absurde et la grâce. Chaque livre d'un auteur s'inscrit à la fois dans une période spécifique de sa vie, de son histoire personnelle et dans une époque particulière de la grande histoire. Il est parfois difficile de déceler ce qui se passait dans la vie de l'auteur pendant l'écriture de son livre, à moins que cet auteur ne nous en donne des indices à l'intérieur même du texte, lors d'entrevues ou autrement. Par contre, la simple date de parution de l'ouvrage révèle aussitôt dans quelle conjoncture historique il a été écrit. Quelques nouvelles d'Éclat de lieu, parues il y a longtemps dans des revues littéraires, principalement XYZ, la revue de la nouvelle, la plupart ont cependant été écrites au cours des 5 dernières années. Et de profonds bouleversements ont ébranlé la planète. En 2011, l'espoir a soudain surgi avec le printemps arabe et d'autres événements cruciaux. De grands moments sociaux d'indignation se sont peu à peu levés à travers le monde. De diverses façons et dans différents contextes, ils réclament, somme toute, le bien commun, une vraie démocratie, sans violence et plus juste. Pour tous les citoyens et ceux qui viendront. La protection de notre terre, devenue urgente et vitale, fait évidemment partie des revendications. Certes, aujourd'hui, les lendemains déchantent devant le travail colossal, complexe et délicat à accomplir pour concilier l'inconciliable. Alors que des forces économiques, politiques ou religieuses extrêmement puissantes cherchent à garder le pouvoir ou à s'en accaparer pour imposer leurs lois. Éclat de lieu porte la marque de ces pages de l'histoire. Ce recueil ne porte cependant pas la trace, sauf peut-être dans une nouvelle, de ce que je vivais dans ma vie personnelle pendant son écriture. Pourtant, dans ma petite histoire, des perturbations majeures sont venues tout chambouler. Mon plus récent roman, Chrysalide, publié en 2006, a aussi été écrit alors que ma vie basculait. Dans ce roman non plus, on ne trouve aucun écho de ce séisme privé. Écrire, pour moi, est une façon privilégiée de voyager dans toute l'étendue virtuelle de mon humanité, au-delà de mon identité circonscrite. Ce qui s'est avéré salvateur dans les circonstances comme dans d'autres précédemment. Il y a eu 7 ans, en juin, on m'annonçait que j'avais un cancer du sang, cancer incurable et mortel. Le pronostic, avec chimiothérapie et greffe de cellules souches, était de 2 ans tout au plus. Malgré cette mort annoncée, j'ai tenu obstinément à me lancer dans l'écriture de Chrysalide, que je projetais d'écrire avant cette annonce fatidique. Peu importe ce qui allait advenir, ce roman était en moi et je voulais l'écrire. L'écriture est toujours très exigeante et elle a été plus encore à ce moment à cause de ma santé plus que précaire. Mais elle m'a permis de m'éloigner du monde de la maladie et de la mort. À l'aide des mots, j'ai construit un personnage, Catherine, Catou pour les intimes, une jeune femme de 22 ans à l'intérieur de laquelle je me suis glissée. J'ai dû l'habiter tout entière, me fondre en elle, dans sa réalité. Catou, qui est la narratrice, écrit une sorte de journal personnel. Je ne pouvais, donc pas, moi, Aude, écrire à sa place avec mon vocabulaire, mon style, mon expérience, etc. Quelle magnifique transmigration. Par la suite, de nombreuses rencontres avec des étudiants et des étudiantes du collégial m'ont confirmé, sans le moindre doute, qu'ils considéraient Catou comme une des leurs. J'avais réussi ma métempsychose. Le pouvoir fabuleux de la fiction me permet une projection dans d'autres expériences que celles tributaires de mon âge, de mon sexe, de mon apparence, de mon état de santé, du lieu où je suis née, de mon appartenance à une culture et des choix que j'ai faits au cours de ma vie. Par l'écriture et la lecture de fiction, mes limites sont abolies et tout devient possible. Après le diagnostic et le pronostic, 2 années ont passé sans que ma mort annoncée survienne. Les traitements se poursuivaient, avec des hauts et des bas, avec des moments où je frôlais la mort, pour ensuite reprendre pied. Peu de temps après la sortie de Chrysalide, malgré ma santé toujours vacillante, je me suis remise à l'écriture de nouvelles cette fois. Puis un projet de recueil a pris forme, peu à peu. Écrire des nouvelles isolées est une chose, mais voir naître un recueil est tout autre chose. J'ai alors fait une demande de bourse au Conseil des arts du Canada, sans trop savoir si je pourrais même me rendre au bout de ce projet. La bourse m'a été accordée et je dois avouer que cette acceptation a été une stimulation très forte pour que je continue d'écrire, malgré des périodes extrêmement difficiles. Je remercie le Conseil des arts du Canada pour cet appui dont il n'a probablement pas pu jusqu'ici mesurer l'importance. Un peu plus tard, quand d'autres nouvelles se sont ajoutées, j'ai envoyé à mon éditeur, Gaëtan Lévesque, ce que j'avais décrit, accompagné de la description détaillée de mon projet, envoyé au CAC. À partir de ce moment, Gaëtan n'a cessé de m'accompagner dans la poursuite de ma démarche. Cela, sans jamais mettre de pression, et en m'incitant toujours à prendre soin de moi. Chaque fois que je lui ai envoyé un nouveau texte, il l'a toujours lu sans délai. Chaque fois, il m'a répondu, et ce qu'il m'écrivait alors me redonnait des ailes. Je ne saurais jamais assez le remercier de croire en mon écriture depuis tant et tant d'années et d'avoir fait, au fil du temps, plein de gestes concrets le prouvant. De cet imperceptible mouvement, publié en 1997, à Éclat de lieu, en 2012, son soutien s'est avéré indéfectible. Certes, je n'ai pas toujours pu écrire au rythme que j'aurais souhaité, mais la fascination, l'exaltation, Et le bonheur de me plonger dans les mots et dans les personnages et dans des personnages était chaque fois au rendez-vous. Est-ce que j'ai pu me rendre au bout de mon projet? Pas tout à fait, même si Éclat de lieu est maintenant publié et qu'il a tout ce qu'il faut pour former un recueil. J'ai cependant encore en moi, pour ce recueil, plein de nouvelles qui demandent à surgir. J'en vois clairement certains personnages, certaines scènes. J'entends des phrases dans ma tête. J'ai plein de pistes à explorer, de mots à suivre. Sauf que j'ai maintenant peur que le temps et l'énergie me manquent. Si ce n'est pas le cas, et que la mort continue à tourner autour de moi, mais sans m'entraîner dans sa danse, je vais écrire ces autres nouvelles qui s'agitent en moi, sans que j'aie pu m'y consacrer jusqu'à ce jour. Je les publierai peut-être dans la stimulante et magnifique revue XYZ, la revue de la nouvelle, éditée aussi par Gaëtan Lévesque. Et comme il m'arrive de le faire, quand je me sens bravache, crâneuse et ricaneuse, je lèverai bien haut le majeur et je dirai, une fois de plus, à la fin de l'écriture de chacune de ces nouvelles, « Fuck la mort !» Est-ce que la mort peut me faire la peau si je n'y suis pas? Est-ce qu'elle peut me trouver si je me suis camouflée dans la peau d'un de mes personnages? La mort ne lit pas, c'est connu. Elle est trop occupée à faucher.
was turn the merry wind, jump the hedges first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I shall watch the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh. Sweet thing, sweet thing. Yeah. Sweet thing. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's beyond dynamite and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I won't remember that I ever felt the pain. Champagne.